Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Bonsoir et bienvenue dans cette émission Autour du Livre, la première de l'année. Et je vais de ce pas vous souhaiter une très très bonne année 2017. Du bon, du bonheur, de nouveaux livres à lire, de nouveaux auteurs à découvrir. Une année riche en rencontres. Délivrez-vous, lisez des livres. C'est un plaisir pour moi de partager cette heure d'émission avec vous, chers auditeurs et auditrices. Un rendez-vous tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois de 20h à 21h sur le 102.2 ou sur le www.rtvfm.net. Vous pouvez retrouver aussi cette émission après sa première diffusion en podcast sur notre site web. Alors le thème de cette émission du mois de janvier, eh bien c'est du roman policier adulte au roman policier jeune public, à l'album jeunesse des tout petits. Le premier invité de cette émission, Frédéric Barrès. Alors Frédéric Barrès écrit sur ses jeunes années des romans contemporains, policiers, des romans d'amour et même des contes provençaux. Et tout de suite après l'interview, une chanson interprétée par les Enfantastiques. C'est une chorale d'enfants qui nous chante une chanson de circonstance. Mais je vous laisse tout d'abord avec notre premier invité, Frédéric Barrès. Bonjour.
Bonjour Annick et bonjour à tous les auditeurs.
Alors Frédéric, vous êtes là donc pour cette rencontre dédicace. Vous vous dites nouvel auteur provençal. Alors qu'est-ce que c'est qui fait cette appellation ?
Alors l'appellation, elle est d'abord d'origine vis-à-vis des héros dont je parle dans mes romans policiers, puisque c'est l'arc méditerranéen depuis Menton jusqu'à Perpignan qui est représenté, et dont beaucoup de scènes fondatrices se déroulent dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse ou dans le Var, et dans les Alpes-Maritimes. Et moi-même, j'habite à Lançon-Provence, dans le pays salonnais.
Alors vous êtes de quelle région sinon d'origine ?
Alors je suis né dans ce que j'appelle le cœur de France. Tous les organes par ailleurs sont excellents, mais j'aime bien l'image du cœur. En fait, à Bourges, dans le Cher. Et pour des raisons, scolaires, ensuite, j'ai émigré dans le Poitou. J'ai travaillé en région parisienne un peu. Et tout le reste de ma vie, donc les 30 dernières années, se déroulent et se passent en Provence.
Alors comment justement vous est venue cette envie d'écrire votre premier livre ?
Écoutez, je ne saurais pas répondre à votre question. En revanche, c'est ma femme qui m'a dit un jour, tu devrais écrire. Et donc il y a eu un déclic et depuis je n'arrête pas. Voilà, donc la motivation, je dirais qu'il y a un certain nombre de choses qui sont accumulées dans le cerveau. D'ailleurs c'est un des sujets de mon dernier livre qui s'appelle « L'écrit des écrivains ». C'est ce qui se passe dans les cerveaux des créateurs en général, pas seulement les auteurs. Et la motivation profonde, donc mais parfaitement inconnue, mais je vis sans le savoir.
Donc peut-être qu'en définitive, vous avez toujours été peut-être imprégné de ça, et si votre femme vous l'a renvoyé, sûrement que ça devait transpirer, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Même petit, à l'école primaire, j'adorais faire les compositions françaises et dissertations. D'ailleurs, je n'avais pas toujours de bonnes notes. Je sortais assez souvent du cadre. Et alors là, j'ai créé un cadre à ma manière, c'est-à-dire j'écris voilà comme les choses me viennent, avec une structure, un scénario et l'envie de raconter ce que j'espère être de belles histoires.
Alors justement, votre premier livre, comment est-ce qu'il a été créé, réalisé ?
Le premier livre, il est venu de l'examen approfondi de la vie monégasque, alors pas celle de la jet set, la vie des salariés, la vie des gens comme vous et moi, probablement les auditeurs, parce qu'on peut vivre à Monaco sans les perles, sans le matu vu, sans toute la richesse opulente. Et donc j'ai imaginé une intrigue policière et scientifique qui se déroulait à Monaco, plus une histoire d'amour, voilà. Donc c'est le site qui m'a inspiré, parce que j'avais, quand j'habitais sur les hauteurs d'une commune française, une vue magnifique sur la mer Méditerranée, et donc voilà, le soir venu, au coucher du soleil, mon imagination a pris le dessus.
Vous
voilà.
Avez été inspiré.
C'est ça, voilà, par la lumière.
Inspiré par la lumière, c'est beau ça.
Mona Codex, en fait, il y a une part clairement sentimentale. Je dirais qu'il y a un triptyque. Donc il y a les sentiments, on vient d'en parler, entre un anti-héros et une jeune femme. Il y a une partie d'une énigme scientifique, en fait, tout à fait abordable, Et puis une partie policière. Voilà. Et donc j'ai mis ça dans un shaker. J'ai bien secoué et j'en ai sorti ce livre au titre énigmatique dont je ne dirai bien évidemment pas la signification. Mona Codex. Donc jeu de mots sur Monaco et Codex.
D'accord, on va garder le suspense. Donc vous avez commencé à écrire concrètement. Donc il y a combien de temps maintenant ?
J'ai commencé il y a 3 ans. Et depuis le jour J, j'écris un peu tout le temps, c'est-à-dire quelques pages, le jour, la nuit, l'heure n'a aucune espèce d'importance. La question, c'est que quand ça déboule dans le cerveau, il faut pouvoir noter 2-3 idées clés pour y revenir plus tard. Voilà, c'est un phénomène qui me dépasse, mais ça, je trouve pas ça très grave en fait. Et donc, je canalise ces idées en les écrivant et en les hiérarchisant par la suite.
Alors justement, donc vous dites que vous avez commencé à écrire il y a 3 ans, et depuis 3 ans, vous avez écrit quand même plusieurs livres.
Tout à fait, donc j'ai une lignée entre guillemets policière qui est publiée chez Sudarène, avec Mona Codex, ensuite La deuxième vie des méduses, et puis maintenant Les cris des écrivains. J'ai également des romans, je dirais, qui concernent, qui sont plus autobiographiques, qui concernent mon enfance, donc dans le centre... dans le Berry. Et puis je suis en train de négocier de nouveaux contrats sur des romans contemporains et puis des contes provençaux pour adultes.
Alors, vous avez devancé ma question après. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture ? Mais alors sinon, quel est vous le style dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise ou dans lequel l'inspiration est là ?
Je dirais que ce qui m'inspire au final et ce que je souhaite retranscrire, c'est la vie des adultes aujourd'hui, qui est pas toujours facile, avec certains qui ont des cicatrices à porter, mais qui s'en sortent, qui jouent aussi énormément sur la relation avec les autres, sur l'entraide, la solidarité, le panache, l'envie, le désir. Donc voilà, ce qui m'inspire, en fait, c'est la vie quotidienne, et j'essaie d'en sortir le meilleur, que ce soit dans les livres dits policiers, dans les romans contemporains, ou même dans les contes provençaux.
Combien de temps pour écrire un livre, par exemple ? Est-ce que je pense que pour chaque livre, il y a eu un temps différent ?
Absolument. Il n'y a pas de recette. L'envie d'écrire peut arriver à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc, en l'occurrence, il faut être pas très loin du papier, d'un crayon ou d'un clavier d'ordinateur. Le temps consacré, bon, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, et tout dépend du sujet. Certains sont très très fluides, d'autres demandent d'y revenir. Et puis il y a toujours la période aussi où on cisèle le style, on veut que les phrases chantonnent, qu'elles aient du sens. Et donc là, c'est une deuxième partie qui peut prendre aussi plusieurs jours ou plusieurs semaines pour que le produit fini, le texte, soit le plus accessible et le plus lisible et le plus fluide, je l'ai déjà dit, en tout cas, puisse parler à chacun. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de votre, par exemple, 4e de couverture, de votre dernier ouvrage ?
Alors, les cris des écrivains, le pitch, c'est en fait d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de tous les créateurs. Créateurs, j'entends... n'importe qui, puisqu'à partir du moment où on est seul, même au volant d'une voiture, et qu'on se met à penser à quelque chose, c'est une forme de création. Les architectes sont des créateurs, les chanteurs sont des créateurs. N'importe qui, d'ailleurs, à son travail, ne fait pas qu'appliquer des consignes. Il y a une énorme... Là, voilà, la cuisine, c'est une création permanente. Voilà, donc on sait qu'à partir du moment où on s'investit dans quelque chose avec cette part de création, le cerveau actionne certains noyaux, certaines parties qui sont différentes de la partie de l'apprentissage, par exemple. Et donc, c'était mon idée d'essayer de comprendre, à base de techniques, ce qui pouvait se passer dans le cerveau. Et donc, le sujet, en fait, dans le livre, ce sont des malfrats qui s'en emparent, qui font des expérimentations, qui ont commencé sur le cerveau des chauffeurs de taxi à Londres. Et d'ailleurs, ceci est véridique. On pourra trouver, si on souhaite vérifier, les données concernant cette recherche. Et donc, j'ai imaginé qu'un auteur pouvait être kidnappé et qu'on allait se servir de lui pour essayer de comprendre un peu mieux ses processus créatifs, si c'est possible.
D'accord. Là, vous nous avez donc résumé un petit peu ce dernier ouvrage.
Les cris des écrivains, avec une partie également sentimentale, puisque le héros est très amoureux d'une barmaid qui fait des superbes cocktails dans les environs d'Aix-en-Provence. Et puis donc il y a des enlèvements, il y a des disparitions très très curieuses. Je n'en dirai pas plus. Je donnerai juste un point de suspension.
Donc un livre à suspense.
Tout à fait, tout à fait. Vous avez parfaitement trouvé, et il faut aller au bout pour savoir quelle est la manigance finale, dont je n'ai pas dit un seul mot, bien sûr.
Alors, comment est-ce qu'on choisit en tant qu'auteur? Comment est-ce qu'on choisit une maison d'édition? Comment est-ce que ça se passe, cette partie-là?
Alors, j'ai envie de dire, c'est surtout la maison d'édition qui nous choisit. Pour ce qui me concerne, donc, j'ai envoyé mon manuscrit à quelques maisons dans le sud de la France où j'habite, et puis même à Paris. Et puis, il se trouve que Sudarène, en l'occurrence, est une maison qui est positionnée dans le Var, qui est une édition nationale, mais dont le siège est à Toulon, ailleurs précisément. Donc, m'a dit, écoutez, on y va, on est intéressé. Et donc, voilà, c'est comme ça que se fait le choix, en fait, par rapport, j'imagine, au style, par rapport aux lignes d'édition, puisque Sudarène a déjà une collection de romans policiers. Et puis, une fois qu'on a commencé, on continue. C'est mon cas, puisque j'en suis au troisième ouvrage avec cette maison-là.
Où trouvez vos livres? Est-ce qu'on les trouve facilement? Comment vous trouve-t-on?
Alors, il y a plusieurs créneaux possibles. Bien évidemment, le site de l'éditeur, donc Sudarène, qui est disponible en ligne. On les trouve également sur d'autres sites connus. Je ne sais pas si on peut dire les marques. En tout cas, on va dire tous ceux qui distribuent des livres, dont Amazon, Fnac et quelques autres. Pour ce qui concerne les librairies, en revanche, en dehors de quelques librairies du Sud, on peut les commander, ainsi que sur mon site, car j'ai un site d'auteur. Et je réalise d'ailleurs des dédicaces personnalisées sur demande. Et donc, il suffit de taper mon nom de famille, Frédéric Barrès, on me trouve, et il y a un onglet, donc une e-boutique, pour obtenir ces livres.
Très bien. Et vous avez peut-être aussi une page Facebook?
J'ai effectivement un blog Facebook qui est accessible, même si soi-même, on n'a pas de page Facebook. Voilà, c'est une page ouverte au grand public.
Très bien. Eh bien, merci Frédéric Barrès.
Merci Annick, et au plaisir.
Cette chanson que nous venons d'écouter bonne année 2017 avec les Enfantastiques. Alors les Enfantastiques, c'est un projet qui a été lancé en 2004 par Monsieur No, Jean No, on dit Monsieur No, hein, c'est un auteur, compositeur, interprète français et c'est lui qui est le créateur du projet Les Enfantastiques. Donc depuis 2004, il a donc réalisé 9 albums et 130 chansons. Des chansons écrites avec des enfants, des chansons chantées par des enfants et des chansons pour d'autres enfants. Voilà, c'est un projet à la base avec des élèves, des enseignants de classes d'école élémentaire. Le terme enfantastique désigne aussi bien le projet global que le nom du premier album ou le nom d'artiste sous lequel les autres albums ont été publiés. Alors si vous voulez retrouver ces chansons, donc les Enfantastiques au pluriel .fr. Un deuxième invité, Pascal Demeure. Pascal Demeure avec ses romans policiers pour adultes et son tout dernier roman, un roman jeunesse, Bob et Raffi, les mini-détectives. Nous parlerons plus précisément de ce premier tome ou premier épisode, car il y aura une suite. Voilà, je laisse la parole à Pascal Demeure. Pascal Demeure, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes en séance dédicace pour présenter donc un roman policier, double vue, aux éditions Sud-Arène, ainsi qu'une série policière Bob et Raffi, les mini-détectives, donc un premier tome, hein, Le Moulin Secret. Alors vous êtes gérant d'entreprise, vous vivez à La Fare-les-Oliviers, dans le département des Bouches-du-Rhône. Combien de livres à ce jour, Pascal Demeure ?
Eh bien, Bob et Raffi, c'est mon septième roman. Septième roman, voilà. Et je suis en train d'écrire d'ailleurs le huitième, qui sera la suite de la série Bob et Raffi, dans un nouvel épisode.
Ce livre est sorti récemment ?
Oui, il est sorti chez Sud-Arène il y a quelques semaines seulement. Et donc, on prépare le prochain épisode pour l'été prochain.
Alors, vous avez commencé à écrire il y a combien de temps ?
Le premier roman est sorti dans les années 90, en 97 je crois. Il s'appelle La Maison Jaune. Et je me suis lancé dans l'aventure d'un roman suite à un contrôle de gestion dans mon entreprise. Mmh. Où pour évacuer un petit peu tout ce que ce contrôle de gestion m'avait fait subir, je me suis lancé dans une histoire. Et c'est ainsi qu'est née la première histoire donc de La Maison Jaune.
Comment est-ce que vous vous octroyez, on va dire, du temps pour écrire ? Parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie, votre travail, quoi, je veux dire. Où est-ce que vous trouvez le temps pour écrire ?
Mais généralement, j'écris soit le soir ou soit le week-end. Oui. Mais je dirais, le temps n'importe pas en fin de compte. Ce qui importe, c'est quand on a envie d'écrire ou quand on n'a pas envie d'écrire. Je peux rester de longues semaines sans écrire. Mais quand je suis généralement dans un roman, je suis tellement bien avec mes personnages que je trouve toujours le temps. C'est comme quand on fait de la peinture, c'est comme quand on fait du sport. C'est une passion, donc on a toujours le temps de faire ce qu'on a envie de faire.
Oui. C'est-à-dire que vous reprenez rendez-vous avec vos personnages.
Ah oui, je suis complètement avec eux pendant toute l'histoire. J'avais fait une série qui existe toujours, qui est la série Tom Enquête. Deux épisodes de cette série avec des personnages cocasses, et j'étais bien avec eux, quoi. Et ça se reproduit maintenant avec Bob et Raffi.
Alors pourquoi cette écriture sur le, alors on va pas dire le polar, hein, c'est pas du polar, c'est du roman policier. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce style ?
C'est venu tout seul. J'ai pas choisi en fait. C'est que j'aime bien les personnages, j'aime bien les gens, j'aime bien les secrets de famille, j'aime bien tout ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est toujours des romans d'enquête sur le passé des gens, sur le caractère des gens, sur la vie des gens. J'aime bien cette recherche un petit peu sur les gens. Alors bien sûr, après il y a une enquête de police ou pas, il y a un meurtre ou pas, mais il y a toujours une enquête. Il y a toujours quelque chose, toujours une recherche sur quelque chose ou sur quelqu'un.
Votre inspiration, elle vous vient à quel moment ? Comment ça se passe ?
Alors ça, j'ai jamais su l'expliquer. Quand ça vient, ça vient. Bob et Raffi, ce sont mes petits-enfants qui m'ont donné l'inspiration. J'ai des jumeaux comme petits-enfants. Et quand je les ai vus évoluer, quand je les ai vus faire, je me suis dit, mais ça, c'est ils sont dans leur monde. C'est génial, quoi. Il y a quelque chose à faire. Donc, c'est venu comme ça. Après, les autres, il y a toujours quelque chose de personnel dans un livre. Donc, c'est soit suite à un voyage, soit suite après une rencontre particulière avec quelqu'un. Il y a toujours quelque chose de personnel. Et puis après, ben, l'imagination fait que ça s'emballe.
Vous construisez.
Voilà. Après, ça s'emballe ou pas. Il y a quelques fois, ça s'emballe pas. Donc, j'arrête et je reprends quelques temps après.
D'accord. Donc ça fait à peu près une quinzaine d'années que vous écrivez du roman policier pour adultes. Et là, donc, vous voilà avec cette série policière jeunesse, hein, un nouveau défi peut-être.
Eh oui, et ça m'apporte beaucoup de plaisir parce que je le présente en dédicace comme à Carpentras aujourd'hui, mais je le présente aussi dans les écoles. C'est un livre qui est destiné aux jeunes qui sont entre le CE1 et le CM1. Donc on va dire entre 7 et 11 ans maximum, 12 ans peut-être. Et je le présente dans les écoles et les retours que j'en ai sont très intéressants parce que c'est direct. Les petits, ils cherchent pas à enjoliver. C'est vraiment direct, c'est vraiment sincère. Et ça m'apporte beaucoup. Et le retour des professeurs est également intéressant et ça me permet, ma foi, de continuer. J'ai bien envie de continuer parce que j'ai l'impression que les petits adhèrent bien à ces personnages.
Oui. Et comment ça se passe justement, ça, le contact avec les enseignants ?
Ça se passe que généralement, ils lisent le livre avant, bien évidemment. Ils le font lire à leurs élèves avant. Mmh. Et ils travaillent le livre environ pendant un mois avant que j'arrive dans la classe. Et ils décortiquent vraiment le livre. Et chaque chapitre est décortiqué. Et généralement, je reviens avec plein de dessins, puisqu'ils me font en même temps des dessins de ce qu'ils ont ressenti. Ils me racontent leurs histoires également, eux, comment ils voient l'évolution des personnages. Et également, ils me donnent des idées pour la suite.
Oui.
Ils me donnent des idées pour la suite. Et ça, j'en tiens compte pour les prochains numéros.
C'est extra, ça.
Oui.
Donc, ils participent d'une certaine façon.
Ils participent. Déjà, je m'aperçois qu'ils ont très, très bien adhéré à l'enquête. Et en plus, ils participent à l'évolution du roman, bien sûr. Ouais. Ils m'aident à construire la suite, tout à fait.
C'est sur des écoles dans les Bouches-du-Rhône ou bien vous vous déplacez un petit peu partout ?
Non, c'est pas que dans les Bouches-du-Rhône. Je suis allé jusqu'à Lyon, en Isère, là où on me demande, en fait, là où les gens sont intéressés par la série. Et ben donc, on prend contact, les professeurs prennent contact avec moi. Et c'est comme ça que ça se passe.
Alors, Bob et Rafi, un livre de combien de pages à peu près ?
Une centaine de pages, pas plus, avec des chapitres courts. Je fais des chapitres courts, des phrases courtes, donc très très compréhensibles pour les petits. Et puis pas plus de 100 pages, parce que après ils risquent de décrocher, donc pas plus de 100 pages, c'est déjà bien. Oui. Et volontairement, aucun dessin. C'est vraiment le vrai petit roman pour les petits jeunes.
D'accord. C'est quoi l'histoire de Bob et Rafi, ces mini-détectives ? Vous pouvez nous raconter un petit peu, juste un peu le résumé ?
Alors, le moulin secret, c'est le chien, Tatus, qui fouine de partout et qui revient d'une promenade avec une clé dans sa gueule. Donc, les jeunes Bob et Rafi, les jumeaux qui ont une dizaine d'années, se mettent en tête que cette clé pourrait très bien ouvrir une maison abandonnée qui est tout près de chez eux. Ils se renseignent sur Internet et ils s'aperçoivent qu'il y a un moulin secret, il y a une légende d'un moulin secret qui cacherait un trésor depuis de nombreuses années. Et ils se mettent dans la tête que la maison à côté de chez eux, c'est ce moulin secret. Et que la clé va ouvrir ce moulin secret. Ils décident tous les quatre, donc avec leurs amis et le chien, d'y pénétrer. Et c'est là que les ennuis commencent.
D'accord. Ça me fait penser un petit peu, moi, à l'époque, c'était le Club des Cinq. Est-ce que c'est un petit lien ou pas ?
C'est un lien. C'est vrai que c'est dans le même esprit, sauf que c'est modernisé. Ils ont la tablette, ils ont la console, ils ont Internet. Ils ont tout ce qu'il faut pour communiquer. C'est dynamique. Il n'y a pas de dessin, comme je disais. Donc, il n'y a pas de... Ça va vite, en fait. Ils sont très, très réactifs. Donc, c'est un peu plus dynamique que le Club des Cinq, mais c'est vrai que ça ressemble. L'esprit est là.
Oui, voilà. L'esprit est là. Donc là, vous avez prévu à peu près combien d'épisodes, combien de petits livres pour cette série ? Vous ne savez pas encore ?
Non, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai aucune idée. On le fait au fur et à mesure. Je prends beaucoup de plaisir à écrire déjà le second. Et j'espère que, ma foi, il y aura autant de plaisir à le lire. Mais non, je ne sais pas combien. Je ne peux pas dire ça.
D'accord. Alors, est-ce que si donc on veut vous contacter, vous joindre, vous avez une page Facebook, vous avez un site ?
Il y a le site de l'éditeur avec une page auteur. Donc sur le site de Sudarène Édition, sudarène.com, les gens peuvent me contacter. Autrement, j'ai une page Facebook, bien sûr, Pascal Demeure sur Facebook, tout à fait.
Très bien. Merci Pascal Demeure.
C'est moi qui vous remercie. Merci à vous.
Un autre genre et pour une toute autre tranche d'âge. C'est avec Stéphanie Jouard que nous allons parler de la petite enfance. Et pour cela, nous allons commencer avec ses chansons, car elle a plus de tours dans son sac que vous ne l'imaginez. Elle écrit ses chansons, elle les interprète, seule ou avec des enfants. Elle joue du violon, de la guitare, elle écrit des livres pour enfants, jeunes enfants. Elle crée des spectacles pour petits et grands. Nous allons l'écouter chanter « Dans mon sac ». En milieu d'interview, un court extrait d'une de ses chansons. Et à la fin de l'interview, elle chantera, toujours accompagnée d'enfants, « La girafe ». La girafe qui est la deuxième chanson de son album qui s'intitule « Léon Capucine, chanson et petit pois ». Nous l'écoutons tout d'abord avec une première chanson « Dans mon sac » et tout de suite après l'interview.
Moi, je m'appelle Léon. Maman m'appelle Loulou. Je sais pas trop pourquoi, mais j'aime bien ça. Voici ma petite sœur Capucine. Elle est petite, Capucine, vraiment petite. Elle est rigolote, aussi vraiment rigolote. Elle adore se déguiser en princesse bleue, danser sur de la musique rock, boire du lait au cacao dans un biberon tasse, mettre une couche à son doudou nounours et trimballer tout ce qui lui tombe sous la main dans son sac, sa valise ou sa besace.
Dans mon sac, il y a plein de bric-à-brac, un tric-trac, un flic-flac, un canot et kayak, un hamac, un couac, un tic-tac, éléphant-tchac, une flaque, une claque, un yak, un papatrac. Dans mon sac, il y a plein de bric-à-brac, un tric-trac, un flic-flac, un canot et kayak, un hamac, un couac, un tic-tac, éléphant-tchac, une flaque, une claque, un yak, un papatrac. Dans ma musette, il y a plein de clopinettes, une galipette, une biquette, une trompette, une gazoulette, une chouette, une pétrolette, une pâquerette, une cacahuète, une pirouette. Dans ma musette, il y a plein de clopinettes, une galipette, une biquette, une trompette, une gargoulette, une chouette, une pétrolette, une pâquerette, une cacahuète, une pirouette.
Il y a plein de poches, une brioche, une pioche, une jolie maillotche, une cloche, une broche, une double croche, une partoche, une galoche, une épiloche. Dans ma sacoche, il y a plein de poches, une brioche, une pioche, une jolie maillotche, une cloche, une broche, une double croche, une partoche, une galoche, une épiloche.
Stéphanie Jouard, bonjour.
Bonjour.
Vous écrivez donc des livres jeunesse, mais pas que. J'ai vu que vous étiez une femme vraiment ressource, pleine de créativité, moi je dirais une créativité débordante, parce que vous faites énormément de choses. Donc vous êtes auteur, donc compositeur, interprète, chanteuse, musicienne, comédienne, intervenante dans plein d'endroits, avec alors surtout auprès des petits-enfants, des plus grands. Racontez-nous un petit peu.
Je me déplace à travers toute la France et même en Europe quand on me demande pour faire soit des ateliers de découverte du violon, de la voix avec les bébés, les moins bébés, mais aussi des spectacles pour les tout petits, mais aussi les moins petits, les adultes, ou bien pour écrire des livres ou faire des rencontres avec des classes en tant qu'auteur. Voilà, enfin j'ai une multiple casquette, mais bon, c'est un peu le hasard de la vie qui veut ça.
Au départ, vous étiez donc peut-être plus dans la musique. Comment vous avez démarré ?
Oui, je suis d'abord violoniste. Et puis, je suis devenue, par hasard, chanteuse. Oui, je n'ai pas fait du tout d'études de chant. J'avais la voix apparemment faite pour ça. Voilà. Et puis, pareil, la vie m'a amenée à créer des spectacles, puis à les jouer, puis à devenir comédienne, puisqu'il faut bien jouer ses spectacles. Et puis à les écrire, donc devenir auteur de spectacles avant tout. Puis après, je ne sais pas comment c'est venu, mais par hasard, également, je suis rentrée dans l'édition jeunesse. Voilà.
Quelle maison d'édition ?
Alors, il y a... Au départ, j'ai travaillé, oui, avec Lutin Malin, qui est une petite maison d'édition dans le Gers. Et puis maintenant, je travaille régulièrement avec Lirabelle, qui est une maison d'édition dans le Gard, qui est très, très professionnelle, que j'aime beaucoup, beaucoup. Avec les éditions Utopiques, qui sont en Corrèze, et de même que Lirabelle, c'est vraiment deux maisons d'édition que je trouve indépendantes, petites, mais très professionnelles dans le sens où... Elles vont chercher des textes et des choses différentes et du grand public, on va dire, de ce qu'on propose en général. Et je trouve ça vraiment chouette. Et puis là, dernièrement, j'ai aussi édité un livre avec Magnard qui s'appelle Regarde, regarde, pour lequel je suis ici aujourd'hui. Voilà. Voilà.
Donc ça, c'est un livre qui est pour des enfants de quel âge, Regarde, regarde?
Alors, je ne sais pas trop, mais je dirais à partir de 3 ans.
Oui.
Voilà. Bon, moi, je l'aurais lu à mes propres enfants avant. Je suppose, mais j'imagine que c'est plus à partir de 3-4 ans, oui, je dirais ça. Après, jusqu'à quand? Oh, 8 ans, je dirais. Enfin, oui, c'est ça.
Donc ça, c'est Regarde, regarde. Alors, vous avez écrit un peu plus de 10 livres, 10 ouvrages. Alors, est-ce qu'ils s'adressent tous à un public jeunesse ou vous avez aussi un public adulte?
J'ai aussi un public adulte, mais beaucoup plus, on va dire, restreint. Pas vraiment, c'est pas, j'ai pas de fans, c'est qu'en fait, je travaille beaucoup moins pour les adultes. Parce que la vie m'a fait aller de plus en plus vers les enfants. Et j'ai plus trop le temps de me consacrer vraiment à l'écriture pour adultes. Mais j'ai écrit donc un livre disque pour adultes sur la femme qui s'appelle Si Eve avait dit non. Qui est pour moi un de mes plus bels ouvrages et certainement une des plus belles choses que j'ai faites. Donc il y a des portraits de femmes avec des peintures dans le livre. Et également les chansons qui sont ces portraits de femmes. C'est 22 portraits de femmes, voilà. Et j'ai aussi fait un autre disque pour les adultes qui s'appelle Opale et qui parle vraiment de la condition humaine dans notre société. Voilà, je suis très attachée. J'ai quand même pas mal de convictions. On dit de moi que je suis une artiste engagée pour les adultes. Moi, non, je me sens juste... Enfin, c'est un regard, c'est mon regard sur la vie, la société. Je me sens pas spécialement plus engagée que ça. Voilà. Et puis, j'ai très peu d'ouvrages pour les adultes. Et j'en ai 8 ou 9 pour les enfants de 0 à 5 ans, ou de 2 à 8 ans, ou de 4 à 10 ans. Et souvent, ils sont accompagnés par d'un CD. Oui, voilà. Parce que comme je suis musicienne, j'adore avoir l'histoire et des chansons qui ponctuent l'histoire. Je trouve que c'est très intéressant pour les enfants.
Alors oui, ce que j'ai entendu aussi dans vos chansons, c'est que il y a souvent des enfants qui chantent avec vous.
Oui, c'est très important pour moi de faire participer les enfants. Alors au départ, c'était les miens ou les enfants des voisins. Et puis petit à petit, j'ai eu des demandes de classes entières. Voilà, donc des classes à Marseille, des classes dans des petits villages. Dès que j'ai l'occasion de enregistrer les enfants, je le fais. Je trouve ça génial et du coup, ça donne vraiment de la. Ouais, puis c'est vivant. Ça devient vivant.
Voilà. Oui, moi j'ai écouté quelques petits morceaux là, je me suis régalée. Entre autres, alors attendez, je cherche un petit peu, c'était la queue au téléski, les petites bêtes, les si et les ré.
Ce sont pas les guêpes, petits guêpes de mon repas, ce sont les petites fourmis qui dépècent ma pizza. Non, ce ne sont pas les mouches qui m'irritent et m'exaspèrent, ce sont les moucherons qui altèrent mon caractère. Ce sont les scorpions cachés dans mes chaussures.
Et puis il y a les moustiques qui me provoquent de leur dispersant,
qui laissent sur ma peau des empreintes que je gratte tout le temps. Des araignées qui prennent le fil de leur toile tissée. Où sont les prisonniers qui me font cauchemarder?
J'ai trouvé ça adorable, vraiment adorable. Alors tout à l'heure, vous étiez en train de parler de ce spectacle que vous avez, alors je ne sais pas, c'était un concert, hein. Si Eve avait dit non, comment ça s'est présenté?
C'est un concert exposition, donc là je chante presque 18 portraits de femmes sur les 22 qui existent sur le livre disque. Il y a des kakémonos. C'est des grandes toiles, mais c'est des reproductions en fait d'étoiles de ces portraits de femmes. Voilà.
D'accord. Et j'ai vu que vous étiez passé sur Carpentras en 2014.
Oui, début, ça doit être mars 2014, je pense. C'est ça. Pour si elle avait dit non. Et si... ouais. Puis après, j'ai beaucoup travaillé à la charité pour les enfants. Ouais, je fais pas mal de spectacles à la charité.
Dans quel cadre alors?
Plein les mirettes. Je suis passée au moins sur 5 ou 6 spectacles.
Voilà. Oui, le festival Plein les mirettes. Oui, oui, tout à fait. Alors donc, des spectacles, des concerts, des ateliers rencontres, des livres CD, des livres tout court. Alors, vous vous déplacez un petit peu de partout. Vous êtes originaire de quelle région?
Alors, je suis grassoise d'origine, donc à côté de Cannes et de Nice, enfin derrière, dans l'arrière-pays. Mais j'y habite plus depuis très longtemps, même si toute ma famille y est encore. Je suis maintenant sur Marseille, mais j'ai longtemps vécu 10 ans dans les Cévennes et je devrais y retourner incessamment sous peu. Voilà.
Peut-être qu'il y a des lieux aussi propices à la créativité, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors moi j'ai trouvé un petit village hyper agréable où il y a énormément d'énergie et de liens sociaux et de gens de tous bords et surtout artistes, artisans, avec beaucoup de volonté de faire prospérer ce village à travers des fêtes ou même tout simplement de création de liens sociaux. Et du coup j'ai envie d'y retourner parce que je m'y sentais vraiment très bien. Et en plus c'est calme, il y a des rivières, donc effectivement c'est propice à la création, ça fait du bien.
Alors donc vous avez un public enfant, tout petit, hein, on a dit de la naissance jusqu'à plus. Un public adulte aussi avec vos livres, hein, vous avez dit que vous aviez des livres aussi. Oui, j'ai vu aussi que vous faisiez des ateliers de polyphonie.
J'ai fait partie d'un trio professionnel des chants des Balkans. Oui. Notamment les chants bulgares. Après, je suis devenue chef de chœur et je fais travailler la polyphonie, que ce soit aux enfants ou aux adultes, parce que voilà, j'adore le chant en fait. Je suis violoniste au départ, mais je pense que je suis une chanteuse avant tout finalement. C'est vraiment mon instrument, même si je pense être une bonne violoniste et être une bonne musicienne. Je suis vraiment, j'aime la voix, voilà, j'aime chanter.
Oui. Vous faites d'ailleurs des ateliers sur la voix.
Oui, des ateliers, même pour les tout petits à partir de 2 ans, parce qu'avant ça, c'est un peu compliqué, la voix n'est pas du tout fait prête. Voilà, ouais, je fais beaucoup d'ateliers sur la voix et sur le violon aussi d'ailleurs.
Alors qu'est-ce que c'est qui vous a amené vraiment à suivre ce cheminement vers la littérature jeunesse par exemple? Oui, on va rester sur le livre. Oui.
Alors c'est en fait un éditeur qui a voulu que je sorte un livre disque, c'est le premier qui m'a édité, Lutin Malin, qui a voulu que je sorte en livre disque un de mes spectacles, qui s'appelle Fifi la farceuse, qui avait un succès fou. C'est mon premier livre CD, mon premier spectacle, hein, d'ailleurs, pour les tout-petits. Et ça a très, très bien fonctionné. Et petit à petit, d'autres éditeurs m'ont fait confiance. Et puis voilà, enfin après, on ne sait pas trop comment ça se fait, mais ça se fait. Voilà.
Donc là, je lis Tiki-Tête, Fifi la farceuse, Les crapauds, Chanson Petit Pois, Adala, Le roi des chats, voilà, plein de petits bouts de chansons. Alors, donc ça, est-ce que ce sont uniquement des spectacles ou des livres accompagnés de CD aussi? Est-ce que ça en fait partie, tous ces titres?
Alors oui, les pratiquement tous sont un support, hein, donc soit un CD, soit un livre avec un CD, soit un livre tout court. Mais j'ai aussi donc des livres CD qui ne sont pas en spectacle. Il y en existe. Mais la plupart des spectacles ont un livre ou un CD, oui.
Mais voilà, merci Stéphanie Jouard.
Merci beaucoup.
Tiens, dans le sac de Capucine, il y a un de mes jouets. Elle prend souvent mes jouets, Capucine. Elle est vraiment coquine. Quelquefois, ça m'énerve. Mais papa dit qu'elle est petite et qu'il ne faut pas la gronder, mais plutôt lui expliquer. Le problème, c'est que ça ne marche pas toujours quand je lui explique. Cette fois, c'est ma girafe à pois rouges qui est dans le sac. Cette girafe, elle en a fait des voyages. Elle en a fait des valises. La dernière fois, c'était pour rendre visite à son cousin, l'ours à pois jaunes.
La girafe à pois rouges a fait sa valise pour partir en voyage sur la banquise. Elle va voir son cousin, l'ours à pois jaunes, au milieu des pingouins, des requins, des dauphins. Elle porte son écharpe grise, son bonnet de coton, sa jolie petite laine cerise, une sacoche de friandises.
la glace au raisin. Elle a mis dans sa valise une luge des raquettes, dans un petit coin des bêtises, une guitare, des clochettes.
La girafe à pois rouge a fait sa valise pour partir en voyage sur la banquise. La girafe à pois rouge a fait sa valise pour partir en voyage sur la banquise.
Elle risque d'avoir froid sur la banquise.
Mais bon.
Si vous voulez retrouver Stéphanie Jouard, donc vous pouvez aller sur sa page Facebook en écrivant tout simplement Stéphanie Jouard, J-O-I-R-E, ainsi que sur son site aussi, www.stéphaniejouard.com.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Donc nous allons passer à présent aux petites annonces autour du livre avec Bonheur de Lecture. Bonheur de Lecture, qui est une association compagnie de théâtre sur Carpentras. Donc le samedi 14 janvier à 18h30 à la bibliothèque Ingamertine à Carpentras, dans le cadre de La Nuit de la Lecture, avec l'auteur Daniel Pénac pour son livre « Comme un roman ». Un texte qui développe une réflexion sur la lecture, ses apprentissages, ses pratiques. Daniel Pénac nous rappelle que la lecture est avant tout un plaisir. Jeudi 26 janvier à 18h30 au Petit Théâtre de la Charité à Carpentras, Honoré de Balzac, Rastignac. Voilà, le père Goriot. Donc, deuxième lecture. Le samedi 4 février à 20h30 à la bibliothèque de Bédouin. Alors, avec l'auteur Amadou Empaté-Ba pour son livre « Ankoulèle, l'enfant Peul ». Le samedi 11 février à 18h30 à la salle polyvalente de Ménherbe, François Cavana, l'Hérital. Voilà, tout ça c'était avec Bonheur de Lecture.
Le samedi 14 janvier à 18h, à la cave des Mazets à Morières-les-Avignons, le troisième apéro livre de l'association Au fil des mots. Donc l'entrée est libre et c'est Nadia Bergougnou qui viendra vous présenter son ouvrage, son petit dernier, qui s'intitule « Un pont entre deux mondes » aux éditions Nombre 7. « Un pont entre deux mondes ». Je vous lis un court extrait du quatrième de couverture. Antonio, le grand-père de Maria, raconte au coin du feu l'histoire de son peuple. Une histoire qui se transmet oralement. La jeune fille, avec l'aide de celui qu'elle a toujours admiré pour son érudition, se battra pour apprendre à lire et à écrire. Elle lui a fait une promesse. Prête à tous les sacrifices, elle s'arrachera à son clan pour la tenir. Écrire l'histoire de son peuple pour qu'enfin tous puissent traverser le pont. Nadia Bergougnou signe là son cinquième ouvrage. Au travers de ses écrits, elle espère elle aussi que les lecteurs accepteront de franchir ce pont. Samedi 14 janvier à 18h à la cave des Mazets à Morières-les-Avignons.
Du 1er au 5 février, un salon du livre jeunesse au gymnase Plein Soleil, boulevard Saint-Vincent à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Du 1er au 5 février. Donc il y a un salon du livre, il y aura des journées scolaires, des journées professionnelles. Le thème cette année de cette fête du livre jeunesse, le thème c'est Sauvage. Sauvage, c'est la 33e fête du livre de jeunesse. Alors pourquoi Sauvage? Un petit mot des organisateurs. Enfant sauvage, retour à la terre. C'est notre humanité qui est interrogée. L'instinct, la nature et ses forces. Qu'est-ce qui est sauvage? Telle est la question. Des expositions, des conférences débats, des conférences lectures, des tables rondes, des ateliers. On va aussi parler de théâtre, de cinéma. Donc si vous voulez en savoir plus, allez donc sur leur site www.slj26.fr. Et là, vous aurez le programme de cette fête du livre jeunesse à Saint-Paul-Trois-Châteaux. L'accès au salon est libre et gratuit. Le vendredi 27 janvier à Cavaillon, à 20h30-21h, un événement avec l'association Agoraya. Laetitia Manant, nous parle de cet événement qui se déroule au cinéma Femina. C'est dans le cadre de son association Agoraya des livres et des arts en Cavaillon qu'elle invite un auteur qui viendra vous parler de son livre. Je vous laisse découvrir cette interview.
Laetitia Manon, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Vous étiez l'invité de l'émission autour du livre le mois de mai 2016. Mmh. Alors d'ailleurs, si les auditeurs veulent écouter cette interview, ils peuvent vous retrouver sur notre site www.rtvfm.net. Ils vont donc vers la rubrique podcast, puis émission et autour du livre. Et ainsi, donc, ils auront directement cette émission. Alors, vous avez écrit des livres objets. Comme vous le dites, vous le définissez comme ça?
Alors, le premier, effectivement, un livre-objet qui s'appelait « Ma Provence au fil des jours », qui avait pour but donc d'être un petit souvenir à destination des touristes en Provence. Et puis ensuite, ce sont plus des recueils de poésie. Voilà, donc il y en a pour l'instant deux et un troisième à venir, normalement courant 2017.
Alors, il y a « Émoi poétique d'une femme d'aujourd'hui » aux éditions Hugues Facora. Un tome 2 qui est sorti en juillet 2016, Émoi poétique d'une planète en détresse.
Effectivement, donc le dernier tome est sorti en juillet 2016 avec une thématique plus axée sur effectivement la planète, l'écologie et puis une sensibilisation à l'humanisme, à l'altruisme et puis à la sauvegarde de notre Terre.
Alors, donc, vous disiez tout à l'heure que vous aviez d'autres livres en cours d'écriture. Alors, ça serait sur quel thème?
Alors, le dernier qui est terminé, qui est un manuscrit confié à un nouvel éditeur parisien. Donc, pour l'instant, j'en dis pas forcément plus, mais ce sera un recueil de poésie générale, un peu un pêle-mêle de plusieurs poésies sur des thématiques diverses. Et puis, j'ai un projet cette fois-ci, alors qui va s'éloigner de la poésie, qui va être un recueil de témoignages sur un thème un peu plus axé sur les expériences de femmes en priorité, puisque effectivement je suis une femme et que je peux parler au nom peut-être des autres, mais donc ce thème va concerner les femmes qui ont été en contact avec ce qu'on appelle généralement des pervers narcissiques. Bon, c'est un vaste sujet, à la fois un sujet complexe, difficile à aborder, souvent tu, difficile à aborder parce qu'on a du mal à appréhender puis à définir ce qu'est un pervers narcissique. Ça peut se décliner de plusieurs façons. Et puis, on a des conséquences dramatiques dans la vie de femmes. Ça peut être lié aussi, il peut y avoir des conséquences qui peuvent découler vers des violences faites aux femmes, souvent des violences morales qui sont très difficiles à être démontrées. Je vais essayer de recueillir des témoignages de femmes qui voudront bien se faire porte-fort et puis donner leur voix, leur leçon de vie et puis aider des femmes qui sont peut-être en souffrance et qui n'ont pas identifié le problème et voilà, qui pourront peut-être sortir de situations difficiles.
Alors Laetitia, vous écrivez, vous avez des projets, vous avez un métier aussi, vous avez créé une association en juillet 2016. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association? Dans quel but cette association?
J'ai créé une association qui s'appelle Agoraya des livres et des arts en Cavaillon, donc en juillet 2016. C'est une association qui est philanthropique, une association qui a une vocation culturelle, littéraire et artistique et qui est partie d'un constat dans la ville de Cavaillon. C'est une ville qui ne déroge pas à la règle des villes et des métropoles françaises qui périclitent un petit peu les cœurs. Enfin, il y a une crise urbaine qui s'est quand même bien installée dans toutes les villes françaises et qui pousse au constat suivant, qui est en fait la désertification des cœurs de ville. Donc, j'ai voulu créer une association pour participer à ma petite échelle à l'animation de la ville. Donc, essayer de mettre en place des petites manifestations qui peuvent donner instinctivement l'envie aux habitants de Cavaillon de sortir dans leur ville et pas forcément aller chercher une animation à l'extérieur. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de modeste, mais qui, j'espère, donnera un petit peu d'engouement aux Cavaillonnais et redonnera l'envie de sortir en ville à Cavaillon.
Alors justement, on a une première date, parce que là, vous avez déjà fait le planning pour le trimestre qui arrive, là, de ce premier trimestre de l'année. Donc nous avons une première date prévue, vous avez prévu le 27 janvier, donc à 20h30 au cinéma Le Fémina à Cavaillon. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette première rencontre ?
Alors, cette première rencontre, je la dois au partenariat indispensable, je dis bien indispensable, des cinémas de Cavaillon, de monsieur Christian Vanadia, sans qui, effectivement, il n'aurait pas pu y avoir de manifestation, il n'y aurait pas pu y avoir Agoraya, concrètement parlant. Donc, cette personne m'a fait l'amitié de mettre à disposition donc, l'une de ses salles pour l'organisation de rencontres, alors de diffusion de projections cinématographiques, et autour de ces projections cinématographiques, une rencontre littéraire ou culturelle avec un auteur, avec un acteur, un artiste, voilà. Et donc c'est autour de ceci que se décline la date du 27 janvier avec la venue de l'acteur césarisé Bruno Puzzulu, qui lui aussi, donc alors je le remercie mille fois, qui a répondu à mes nombreuses sollicitations, notamment cet été, alors qu'il se produisait au Festival d'Avignon dans le cadre d'une magnifique pièce de théâtre qui s'appelait L'Attentat de Yasmine Kadra, donc dans lequel il était vraiment remarquable. Et à la suite de cela, donc on a eu plusieurs contacts et il a eu donc la gentillesse de venir, d'accepter mon invitation pour le vendredi 27 janvier 2017.
Donc c'était lors de cette rencontre que vous avez eu l'idée d'aller le voir directement et de lui poser la question ?
Alors ça a été un peu plus compliqué que ça, donc j'ai essayé de le voir au festival, ça a été un peu difficile, je n'y suis pas arrivée parce qu'il était très sollicité. Pas, voilà. Donc je l'ai abordé grâce à la modernité de ce que nous propose c'est ça, aux réseaux sociaux. Et c'est il est très très réactif. Voilà, il m'a gentiment répondu et donc c'est parti comme ça. Puis il y a, je veux dire, quand même un dialogue qui s'est mis en place tout simplement, tout naturellement. Il y a une espèce d'échange amical qui s'est fait simplement. C'est quelqu'un de très humain, de très disponible et j'ai été ravie de faire sa connaissance et ravie de le recevoir. À l'issue de la rencontre, Bruno Puzzulu dédicacera son ouvrage « Conversation avec Philippe Noiret » et la librairie Élan Sud d'Orange sera sur place au cinéma Fémina pour ses dédicaces. Je remercie d'ailleurs infiniment la librairie Élan Sud et particulièrement sa responsable Corinne Nedierhofer pour son soutien indispensable.
Alors donc ça c'est le premier invité qui est donc prévu le 27 janvier au cinéma Le Fémina à Cavaillon. Alors il y aura aussi un deuxième invité pour ce mois de février. Alors qui est-ce que vous avez invité pour cette deuxième rencontre, Laetitia ?
Cette deuxième rencontre va accueillir un auteur qui est un journaliste aussi au journal Le Monde. C'est un monsieur qui traite de problèmes autour des transports en général et qui là a écrit un livre qui s'appelle « Comment la France a tué ses villes ». Donc on est bien dans ce que j'évoquais au tout début. Donc Olivier Razemont va venir à la salle du Grenier à Cavaillon faire une conférence sur cette thématique-là. Donc ça va être une thématique qui va être tout à fait ouverte, absolument pas politique, absolument pas politisée. Au contraire, ça va être un lieu d'échange, de rencontre, de réflexion commune. Donc nous invitons tous les groupes les associations citoyennes, tous les groupes, toutes les associations, toutes les personnes intéressées par ce sujet, je pense qu'elle peut, ce sujet peut toucher énormément de monde, à venir participer à cette réflexion, à ce débat autour de cette idée, afin de lutter contre cette crise urbaine qui touche nombre de villes en France.
Un troisième rendez-vous, alors là, peut-être la date, c'est peut-être pas encore fixée, alors c'est peut-être fin mars ou plutôt avril. Donc c'est un autre rendez-vous. Alors là, quels sont vos invités, Laetitia ?
Pour cette troisième date, j'ai trouvé intéressant d'inviter un collectif d'auteurs locaux, donc des confrères que j'ai l'occasion de rencontrer lors des salons du livre qui ont lieu en Vaucluse et puis dans les départements limitrophes. Il y a 6 auteurs à peu près qui ont répondu à mon invitation. Pour l'instant, donc, je n'en dis pas plus parce que la date effectivement n'est pas encore déterminée de façon ferme. Mais voilà, ce sera un échange qui sera intéressant. Il y aura une projection d'un film a priori autour de l'écriture qui aura une thématique, celle de la littérature. Et ensuite, un débat avec donc ces auteurs locaux. Donc le thème de ce débat sera passion écrivain. Voilà, et à l'issue de ce débat, les auteurs pourront répondre aux questions de l'assistance et puis dédicacer leurs ouvrages.
Alors, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais par exemple, l'idée de... Avec Olivier Rasemont, comment cette rencontre s'est faite avec ce journaliste ?
Alors, cette rencontre s'est faite tout simplement parce que j'ai regardé dans ma sélection au moment de la rentrée littéraire. J'aime bien regarder les livres qui sont sortis, qui paraissent. Ah. Et puis, j'ai trouvé... Enfin, moi, ce livre m'a attirée tout de suite. Donc, je me suis orientée vers la maison d'édition de façon classique lorsqu'une association va entrer en contact avec un auteur. Et puis donc j'ai sollicité l'éditrice qui m'a mise en contact avec l'auteur, voilà, qui sillonne la France et qui fait beaucoup de conférences sur cette même idée.
Un trimestre prometteur pour l'association Agoraya, donc, et sa présidente Laetitia Manon. Laetitia, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot ?
Oui, je veux bien rajouter un petit mot. Mais écoutez, j'espère que de nombreux Vauclusiens et non-Vauclusiens viendront assister à nos manifestations. Mmh. Voilà, on vous accueille, on vous attend et venez nombreux.
Merci Laetitia.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Nous terminons cette première émission de l'année Autour du Livre en chanson. Et je vous renouvelle mes vœux, chers auditeurs et auditrices, avec cette chanson adorable interprétée par les Enfantastiques.
Bonne et heureuse année, un nouveau millésime enfin est né. 52 semaines qui font envie, 4 saisons. Notre bouquet de jours à venir. Bonne et heureuse année, l'heure des résolutions vient de sonner. Et si chacun y met un peu du sien, tout peut changer avec 3 fois rien. Bonne et heureuse année, et surtout n'oublions pas de donner. C'est urgent.